Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mercredi 30 juin avec le journal d'Anaïs Feugat. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence avec le sourire retrouvé des commerçants.
4 semaines de soldes et des magasins pleins. Fini les jauges dans les commerces, les cinémas et les restaurants. Mais le gouvernement appelle à la vigilance absolue. Le variant Delta inquiète. Nous verrons comment notre pays s'est mis en ordre de bataille pour séquencer ce virus. Une nouvelle infraction verra-t-elle le jour dans le code pénal, celle d'intoxication délibérée. La proposition de 2 parlementaires pour combler le vide juridique de l'irresponsabilité, relancée par l'absence de procès dans l'affaire Sarah Halimi. Il y a 30 ans, l'Afrique du Sud abolissait l'apartheid, mais les blocages politiques ou judiciaires ont entravé de nombreuses enquêtes sur les anciens tortionnaires. Le parquet sud-africain met en place une unité spéciale. Premier contre-la-montre sur le Tour de France, écrasé par la puissance de Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour l'année dernière. Mathieu Van Der Poel conserve le maillot jaune.
À 18h15, un jour dans le monde, en Slovénie, ce soir, à la veille de la présidence tournante de l'Union, la Slovénie qui inquiète un peu une partie des 26 pour son virage populiste, sa proximité avec Viktor Orban, et qui aura aussi à gérer la sortie de la pandémie ou le plan de relance. À 19h20, c'est le téléphone sonne. La PMA pour toutes a été votée hier, la fin d'un très long processus parlementaire et un épilogue qui permet donc désormais aux femmes seules et aux couples de lesbiennes d'accéder à la PMA. Dans la pratique, ce sera peut-être un peu plus difficile. Est-ce qu'il y aura assez de dons de sperme? Comment va-t-on gérer les priorités? Est-ce que le don sera le même désormais que l'anonymat des donneurs élevé? On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
À quelques jours de la fin de l'année scolaire, Anaïs, des départs en vacances. Donc, comment analyser la situation sanitaire en France?
Eh bien, d'un côté, des indicateurs, de l'autre, des inquiétudes. Un taux d'incidence très bas, moins de 19 nouveaux cas pour 100 000 habitants, mais un taux qui ne baisse plus. Une vaccination qui reprend, plus 10% dans les rendez-vous pour une première injection. Et le variant Delta, dont on a encore du mal à esquisser les contours de sa propagation. Alors si dès aujourd'hui, les restaurants, les cinémas peuvent à nouveau faire le plein, le gouvernement, lui, Maxence Lambrecq, appelle à une vigilance absolue.
Oui, le variant Delta peut tout balayer, c'est ce que se dit l'exécutif ces jours-ci. Et si c'est arrivé, on ne serait plus dans la lassitude, mais dans la dépression, estime un cadre de la majorité. Et adieu le programme de réforme que s'apprête à relancer Emmanuel Macron. À la sortie du Conseil des ministres ce midi, le porte-parole Gabriel Attal appelle donc à la prudence.
La vigilance reste absolue et nous avons des motifs de préoccupation. Le variant Delta progresse, il progresse même très rapidement. Il représentait environ 10% des contaminations la semaine dernière. C'est un niveau qui a doublé en moins d'une semaine. Depuis quelques jours, le taux d'incidence au niveau national semble ne plus diminuer.
Et dans certains départements, il repart légèrement à la hausse. Mais pour l'instant, il n'y a que dans les Landes que la fin des restrictions est reportée au 6 juillet prochain. Ce discours assez grave, cette vigilance absolue, elle permet de valoriser à nouveau la vaccination.
Cet été, grâce au vaccin, nous pouvons prendre une longueur d'avance sur le variant Delta. Chaque vaccination est une protection contre la quatrième vague.
Et il faudra peut-être dramatiser encore davantage, estime un communicant du pouvoir, pour que les plus de 60 ans aillent vraiment se faire vacciner cet été. Ils sont environ 20% à ne pas l'être et un tiers des personnes à comorbidité. Et en septembre, le gouvernement estime que le déremboursement des tests PCR devrait convaincre les jeunes d'y aller.
Merci Maxence Lambrecq. Et donc ce variant Delta dont l'Europe nous dit qu'il représentera 90% des cas à la fin de l'été sur notre continent. Dans les Landes, il va bientôt frôler la moitié des nouvelles infections. Eh bien c'est grâce au séquençage qu'on arrive désormais à tracer l'évolution de ces différents variants. C'était le britannique il y a quelques mois. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
En 6 mois, on a fait des progrès spectaculaires en France.
Oui, en même temps, on partait de très très bas. Hein. Seulement 2 à 3 000 séquençages pour la France en 2020. Quand la Grande-Bretagne, championne de la discipline, était elle à plus de 150 000. Mais depuis janvier, la création du consortium Emergen qui centralise, organise ce séquençage au niveau national, le rythme s'est bien accéléré. On est passé à près de 80 000 analyses génomiques en 6 mois. Alors à quoi sert ce séquençage des prélèvements positifs à la Covid? Eh bien tout d'abord à scruter, décrire plus finement l'épidémie, constater quels variants circulent, détecter la présence d'une nouvelle mutation inquiétante, mais aussi mieux comprendre pourquoi tel patient s'est retrouvé en réanimation ou en échec vaccinal. Il va permettre aussi de faire des modélisations plus précises, par exemple savoir quelles conséquences aura la prédominance du variant Delta sur des hospitalisations. Pour le moment, 4 gros grosses plateformes et une quarantaine de plus petits laboratoires rattachés à des hôpitaux effectuent ce séquençage. Mais certaines régions, et notamment le sud-ouest et l'est, semblent encore moins bien couvertes que d'autres. Actuellement, Emergen tourne à 3 à 4 000 analyses chaque semaine. L'objectif est d'en faire 10 à 12 000 d'ici à la fin de l'été.
Et personne ne veut répéter les erreurs de l'été passé. On l'a compris, le spectre de la quatrième vague en septembre prochain est dans tous les esprits et la pression sur la vaccination des soignants est à l'avenant. J'ai changé d'avis sur la question, avoué ce matin le président du conseil scientifique sur France Inter, Jean-François Delfraissy, disant envisager désormais de la rendre obligatoire, inquiet pour les 20% de plus de 60 ans, toujours pas vaccinés, les obèses, peu vaccinés aussi. Le Premier ministre lancera dans les jours qui viennent une consultation sur la vaccination des personnels des EHPAD, mais aussi sur le recours au pass sanitaire et la question de l'isolement des malades du Covid-19. Un mot encore à l'étranger, 2000 cas de Covid-19 recensés chez des Écossais qui avaient assisté à des événements liés à l'euro, que ce soit dans un stade, une fan zone ou un pub. Et puis le Portugal a franchi la barre des 2000 cas quotidiens, plus haut niveau depuis la mi-février. Grande voix de la radio d'aujourd'hui ou d'hier, toutes réunies devant les locaux d'Europe 1 ce matin pour dénoncer l'emprise de Vincent Bolloré sur la radio et la crainte de la transformation de cette station historique en média d'opinion. 150 personnes au total au moment où se tenait l'Assemblée Générale des actionnaires de Lagardère, propriétaire d'Europe 1. Assemblée Générale qui tourne une page dans l'histoire de l'entreprise. Arnaud Lagardère perd son pouvoir absolu. Entrée en force de Vivendi et Vincent Bolloré, c'est la fin du statut particulier de la commandite Fabien Cazot.
Le changement de statut du groupe Lagardère implique aussi un changement de statut pour son patron. Intouchable sous le régime de la commandite qui lui permettait de contrôler l'entreprise en détenant seulement 7% du capital, Arnaud Lagardère devra désormais rendre des comptes à son conseil d'administration. Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, y sera représenté, tout comme LVMH, le groupe de Bernard Arnault. Voilà plus que jamais Arnaud Lagardère sous surveillance entre ces deux encombrants bienfaiteurs qu'il avait renfloués l'année dernière, mais qui lorgne sur les activités du groupe dans les médias et l'édition. Un groupe désormais exposé au risque d'OPA en devenant société anonyme, les actionnaires pouvant désormais acheter ou vendre des titres en grande quantité, un actionnaire extérieur ou déjà présent au capital pourrait finir par en détenir la majorité et prendre le contrôle du groupe, une fragilité vue dans les milieux d'affaires comme le prix payé par Arnaud Lagardère pour pouvoir rester à la tête du groupe qui porte son nom pour encore 6 ans.
Un trafic SNCF quasi normal demain, malgré l'appel à la grève nationale lancé par la CGT Cheminots pour demander embauche et hausse générale de salaire. A priori, juste quelques perturbations dans les TER en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Ce week-end, plusieurs préavis concernent les Ouigo, dont le plan de transport sera adapté. Les pesticides n'empoisonnent pas que notre environnement. Une vaste étude de l'INSERM montre qu'il existe une présomption forte entre l'exposition professionnelle à ces produits et si maladies graves, des cancers et des maladies du cerveau. Toutes les précisions tout à l'heure dans le journal de 19h.
Depuis l'affaire Halimi, la douloureuse question de l'irresponsabilité pénale.
Oui, depuis que la Cour de cassation a confirmé qu'il n'était pas possible de juger le meurtrier de cette femme juive pris d'une bouffée délirante et donc pas responsable pénalement de ses actes. Le garde des Sceaux va présenter en juillet un projet de loi pour combler ce qu'il appelle ces vides juridiques. Il sera discuté en septembre. Et deux des députés apportent aujourd'hui leur pierre à l'édifice. Mandatés en mission flash par la commission des lois, ils ont auditionné une vingtaine de personnes pour faire des propositions qui viendront alimenter le débat. Bonsoir Laurélie Carive.
Bonsoir.
Mais pas question pour l'instant de toucher à l'article tabou sur la responsabilité pénale, celui qui, depuis la nuit des temps, interdit de juger les fous.
Oui, c'est la conclusion à laquelle les deux parlementaires sont parvenus après avoir interrogé des médecins, des avocats, des magistrats et des associations de victimes. Antoine Savigna est député LR du Val-d'Oise.
C'est l'un des principes fondamentaux de notre droit. On ne juge pas les fous et à partir du moment où le délit ou le crime n'ont pas été commis de manière intentionnelle, on ne peut pas procéder au jugement de la personne.
Pour autant, dit-il, il y a des trous dans la raquette auxquels il faut remédier. D'une part, en considérant qu'on ne peut pas conclure à l'abolition du discernement si une personne a volontairement consommé des stupéfiants pour faciliter le passage à l'acte. On pense notamment aux djihadistes qui prennent du captagon avant une attaque. Et d'autre part, en créant une nouvelle infraction autonome d'intoxication délibérée. Autrement dit, si vous commettez involontairement un crime ou un délit après avoir délibérément consommé consommer un produit susceptible de nuire à votre libre arbitre. Dans ce cas-là, vous encourez une peine moins lourde que quelqu'un qui serait pleinement responsable de ses actes au moment des faits. Tout ça, ce ne sont que des pistes de réflexion autour d'un sujet aussi technique que sensible et qui s'applique, il faut le rappeler, à un très faible nombre d'affaires. On connaîtra en juillet le projet de loi promis par Éric Dupond-Moretti et qui se trouve actuellement entre les mains du Conseil d'État.
La difficile quête de justice, profond ressort de toute humanité, tellement entravée pendant les années d'apartheid en Afrique du Sud. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 30 juin 1991, les lois ségrégationnistes étaient abolies. 4 ans plus tard et la victoire de l'ANC était mise en place, la commission Vérité, présidée par l'archevêque Desmond Tutu, exhumer les crimes racistes et faire la lumière sur les atrocités. Mais 30 ans plus tard, des familles sont toujours en attente de justice, dossiers bloqués dans les méandres politico-juridiques. Il y a 3 jours, le parquet national a donc décidé d'accélérer. À Johannesburg, Romain Chanson.
Depuis le changement de direction au parquet national en 2019, le nombre de dossiers étudiés est passé de 4 à une centaine, symbole des entraves passées et du nouveau souffle que veut donner cette institution. Une unité spéciale va se consacrer aux crimes oubliés de l'apartheid, explique Sipon Gwema, porte-parole du parquet national.
Elle est constituée d'anciens procureurs partis à la retraite et d'enquêteurs supplémentaires qui vont se consacrer uniquement à ces dossiers.
Parmi les gros dossiers en suspens, l'assassinat par la police de 4 militants anti-apartheid, les Craddock Four, en juin 1985. Dorothy Kalata, fille de l'une des victimes, accueille ces annonces avec prudence.
Dans notre langue maternelle, il y a une expression qui signifie « l'espoir ne déçoit jamais ». Et je me souviens avoir déjà répondu « dans notre cas, l'espoir nous a déçus tant de fois. »
L'extrême lenteur des enquêtes n'invite pas à l'enthousiasme. La commission Vérité, établie en 1995, n'a pas réussi à régler tous les dossiers, rappelle Dorothy Kalata.
Ils ont dénombré environ 300 dossiers qui nécessitent des enquêtes et des poursuites approfondies.
Pour davantage d'efficacité, l'étude des dossiers est décentralisée. Dorothy a déjà reçu la visite des enquêteurs. À Johannesburg, Romain Chanson pour France Inter.
Au pied du mur, à la veille du 1er juillet, le Royaume-Uni annonce avoir trouvé un accord avec l'Union européenne dans ce qu'on appelle la guerre de la saucisse. Les mesures post-Brexit avec l'Irlande du Nord sont reportées de 3 mois. La Grande-Bretagne pourra donc continuer à expédier de la viande réfrigérée comme ces fameuses saucisses anglaises. L'armée suisse, elle, volera américain plutôt que français. Le gouvernement a décidé de commander 36 avions de combat F-35A et non pas des Rafales. Facture près de 5 milliards d'euros. Le gouvernement suisse veut également commandé pour 2 milliards de francs suisses, 5 systèmes Patriot. La décision doit être soumise au Parlement. Il n'aura fallu que 5 jours aux gendarmes bretons pour arrêter la spectatrice à l'origine de la chute du peloton lors de la première étape du Tour de France dans le Finistère. Elle est ce soir en garde à vue. À Laval, cet après-midi, la démonstration de force de Tadej Pogacar lancée à 51 km/h pour avaler les 27 km du contre-la-montre. Une distance bien longue qui permet à Nicolas Perronnet de rebattre les cartes et installer déjà une hiérarchie.
Oui, avec un nom tout en haut de cette hiérarchie, effectivement, Tadej Pogacar. On n'a pas assommé le Tour hein, aujourd'hui, mais il a envoyé un sérieux message. Vainqueur de ce contre-la-montre avec 19 secondes d'avance sur un vrai spécialiste qui est le Suisse Stephen Küng. C'est un message à ses concurrents pour la victoire finale, un message à son compatriote Primoz Roglic, 7e aujourd'hui, 44 secondes concédées au général. C'est moins que l'an dernier lorsque Pogacar lui a subtilisé le Tour sur le chrono de la planche des belles filles à la veille des champs, mais c'est un message sérieux envoyé par le tenant du titre. Les autres enseignements du jour, Alaphilippe, trop juste sur l'exercice, 14e à 1 minute 11, le voilà désormais éjecté du podium, 4e du général. En classement général, toujours dominé par Mathieu Van Der Poel, ce soir le néerlandais sauve son maillot jaune pour 8 petites secondes. Le petit-fils de Raymond Poulidor sera donc encore en jaune demain, 8 secondes d'avance sur Pogacar et 30 sur le Belge Wout van Aert. Voilà le nouveau podium du Tour.
Nicolas Perronnet avec Hélène Langlois à Laval et demain 160 km entre Tours et Châteauroux.
Eh bien, merci beaucoup Anaïs Feugat.